Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Salvador Dali, 1904-1989. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre vous invite à la poursuite d'un artiste pour lequel l'adjectif génial, avec toute sa démesure, semble avoir été conçu. Un homme qui vivait avec sur l'épaule le fantôme de son frère aîné, lui aussi prénommé Salvador. Toutes mes excentricités, toutes mes incohérences sont la constante tragique de ma vie. Je veux prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le vivant, avouera-t-il ainsi. Rendez-vous donc à Figueras, en Catalogne, pour un voyage aller-retour qui passe par Madrid, Paris et New York et s'achève dans le théâtre-musée qui renferme encore aujourd'hui ses trésors et qui fut son tombeau. Et où, derrière les carreaux brisés d'une Rolls-Royce, s'égayent paresseusement des escargots. Salvador Dali, un documentaire de Pascal Lismonde et Dominique Costa.
Allô, allô, allô. Mon idéal, ça serait d'arriver à être Dali. Et je m'y approche, mais c'est très compliqué parce que c'est un être tellement sublime que je ne sais pas si je vais y atteindre.
Une vie, une œuvre. Une émission de Pascal Lismonde réalisée par Dominique Costa. Aujourd'hui, un certain Catalan, né le 11 mai 1904 à Figueras, transféré le 23 janvier 1989 tout droit au panthéon des grands artistes, Salvador Dali.
Salvador Dali, qui est votre humble serviteur.
Robert Deschard, nous sommes chez vous, donc, et on voit toute une série de photos, de portraits que vous avez fait de Dali lui-même. Peut-être pourrions-nous dire un mot de celle qui est là, qui est reprise là, parce qu'elle est quand même particulièrement drôle, bien dans la lignée du personnage.
Le personnage avec les moustaches.
Oui.
Oui, avec. Il avait planté dans ses moustaches des pissenlits, ben de la classique image de Larousse. Je sème à tout vent.
Donc c'était
et avec une fleur de jasmin sur l'oreille.
Vous n'êtes pas ridicule.
Ah, écoutez, je fais tout ce que je peux pour l'être, puisque vraiment, il n'y a rien de plus... Tous les êtres les plus sublimes ont été ridicules, à commencer par Diogène. Maintenant, avec... au lieu de deux moustaches, comme j'ai maintenant, je n'ai fait quatre... C'est-à-dire, j'insiste, deux boucles de chaque côté. Enfin, je commence à me préparer pour enfin déclencher ce sentiment de ridicule qui est la constante tragique de l'histoire.
La only difference between one crazy man and Dali is very simple. Dali is not crazy at all.
Je pense que c'est le peintre le plus populaire qui existe parce que les gens, même celles qui ne s'intéressent pas à l'art, quand on nomme Dali, ils voient son visage plutôt que ses œuvres.
Avec les moustaches, surtout.
Oui, parce qu'il il a été un grand maître, à part un maître dans la peinture, dans la sculpture, dans tout ce qu'il a fait, mais il a été un grand maître de communication.
Et oui, Beniamino Levi, remarchons, Salvador Dali est l'un des artistes les plus populaires qu'il soit. Plus de 800 000 visiteurs en 1978 pour la rétrospective organisée de son vivant par le Centre Pompidou, du jamais vu au Musée d'Art Moderne. Et pourtant, en cette année du centenaire de sa naissance, pas l'ombre d'une exposition muséale en France. Populaire, mais mal aimé. Mal aimé de la critique, qui déteste en général les succès tapageurs, ainsi que tout ce qui remue beaucoup trop d'argent et qui barbote dans l'eau trouble des contrefaçons ou des successions sans scrupules. En plus, c'est clair, Dali n'a rien fait pour empêcher ces trafics. Et même, on imagine qu'il les a peut-être provoqués par goût avéré de la provocation post-mortem. Dali délire. C'est l'artiste du trop. Trop extravagant, trop inventif, trop moderne, trop classique, trop surréaliste. Trop, trop, trop. Volontairement insupportable, mais décidément, comme il dit, génial. Alors, si ce trou vous intrigue, écoutez donc ici ceux qui l'ont bien connu. Son ancien secrétaire, Robert Descharnes, ou le photographe Enrique Sabater, ou ceux qui analysent les composants de son génie, l'artiste Gérard Garousse et le critique Michel Nourissani.
Le rituel de l'eau, on se croirait presque Cadaquès ou Paul Léga de Gérard Garousse. Alors, nous sommes ici sous votre tonnelle, dans un très bel atelier du 11e arrondissement à Paris. Mais l'endroit, je pense, n'aurait pas déplu à Salvador Dali parce qu'il aimait beaucoup la nature, entre Port Liguette, qui donne la maison qui donne sur la mer, ou le château de Poubol, qui était aussi un lieu de prédilection pour lui, tout à fait dans la nature.
Puis il aimait aussi beaucoup la ville, oui. L'ambiance des vernissages, des fêtes et tout ça aussi.
Et New York,
oui.
Et aussi Barcelone. Mm-hmm. Oui, oui, c'était un homme assez complexe.
Oui.
Qu'est-ce qui vous attire chez lui ?
Déjà le fait, tout simplement, tout bêtement, aujourd'hui on a envie de regarder la peinture de très très près et on a envie de regarder cette période tout à fait passionnante qu'on met autour du surréalisme. Mais je trouve que finalement c'est assez réducteur de parler du surréalisme parce que c'est vraiment moi. Une période... Où il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et l'originalité de Salvador Dali, tout d'un coup, m'intéresse parce que on y trouve ses limites. Et c'est très intéressant à travers ce délire que veut s'approprier Salvador Dali, c'est très intéressant de voir que ce délire est en fait totalement maîtrisé et cloisonné et cerné par le cadre du tableau.
La conscience de mon génie s'est produite subitement. Au début, j'ai joué à faire le génie, à pas être un génie, peut-être 20 ans, et je le faisais uniquement pour épater les journalistes ou des gens comme vous, les gens qui venaient m'interviewer, etc. Alors, je n'y croyais pas du tout, je le faisais uniquement comme un jeu. C'est pour ça que j'ai dit dernièrement, attention à jouer au génie parce qu'on risque de le devenir.
Par quel bout allons-nous le prendre, ce Salvador Dali ?
Par le bout de la modernité. C'est-à-dire, je trouve que jusqu'à présent, la plupart des gens qui parlent de Dali le considèrent en tant que peintre. Et donc, raisonnent en termes de peinture. Or, il n'est pas que peintre. Il est d'abord écrivain. Et d'autre part, je crois que, par exemple, en 1940, quand il arrive à New York, il arrête pratiquement de peindre. Et vous savez qu'il y a une exposition « Quand les attitudes deviennent formes ». Et je pense que quand il arrive... Darl Zeman. Quand il arrive en 1940 à New York, eh bien, il va devenir une attitude. Il arrête pratiquement de peindre, il écrit. Et là, je pense que c'est pas une invention totale de Dali. Il a vu comment Duchamp faisait... C'était aussi une attitude. Eh bien, Dali va devenir une attitude, c'est-à-dire, il dit, qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? C'est quelqu'un qui est fou, donc je suis fou. C'est quelqu'un qui a une muse, donc j'ai gala. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui entretient des rapports particuliers à l'argent. Soit on est pauvre, extraordinairement pauvre, ou on est extraordinairement riche. Et il dit, moi je suis très riche. Et donc là, il incarne l'artiste, comme le voit le grand public, c'est-à-dire il devient, on peut dire, une icône ou une image, comme ça. Je trouve que ça, c'est un point de vue qui peut être intéressant pour sortir Dali de son espèce de cercueil dans lequel on le met, artiste surréaliste.
Thank you.
l'amour, c'est quelque chose d'inconnu qui rentre par l'œil et s'écoule par l'extrémité du sexe en forme de gouttelettes plus ou moins généreuses de foudre.
Le personnage de Gala, alors, qu'est-ce que vous en pensez, Robert Descharmes?
Moi, quand on dit qu'elle est monstrueuse, je dis pire que ça, mais tellement mieux. Et c'est vrai, c'était une femme...
C'est à ce point?
Ah oui, c'était une femme phénoménale. Mais évidemment, elle était détestée par toute une catégorie d'hommes, dont beaucoup de marchands, beaucoup d'intellectuels, parce que typiquement macho, comme étaient beaucoup des surréalistes, il faut bien le reconnaître. Alors, mais toujours est-il qu'elle a quand même su en séduire quelques-uns.
Alors, on connaît l'histoire, on sait que Dali l'a enlevée à Paul Éluard, ce oui. qui évidemment fait partie des choses qui ne lui ont pas été pardonnées,
été,
sans doute, par les surréalistes.
Elle a eu une aventure serrée avec Max Ernst.
Aussi, oui.
Aussi.
Mais donc, et, Dali l'a remportée.
Et d'autres, non, c'était une femme probablement gourmande. Mais bon, c'est la vie, c'est bien. D'ailleurs, Dali était très satisfait de ça. Et il était bien obligé, d'ailleurs. Elle a fait son éducation sexuelle, ça c'est sûr.
À ce moment-ci, j'ai passé une phase eschatologique. Dans le sens, je pratiquais absolument cette perversion, mais j'étais halluciné après les années pourries par l'apparition d'excréments d'une certaine consistance posés en équilibre sur la tête des amis ou des êtres imaginaires. Et pendant que j'étais en train de faire toutes ces expériences imaginatives et de me tordre de rire, subitement je rencontrais par hasard ma femme. J'ai senti aussitôt que ma vie prenait une douceur systématique et presque, on pourrait dire que c'est la rencontre avec ma femme qui a structuré d'une façon claire mon activité paranoïa critique. C'est-à-dire tous les éléments épars, obsessifs et délirants de ma vie jusqu'à ce présent prenaient une architecture, devenaient architecture.
Tout se passa très vite. Nous devions nous baigner avec les Éluards et rendez-vous était pris sur la plage. Mon dessein était de les sidérer par mon extravagance. Ce couple incarnait pour moi, petit provincial, le sel de Paris. Leur assurance, leur mine blasée, leur luxe me choquaient comme une provocation et me fascinaient. Gala, avec ses valises à la dernière mode, qui se démontaient, se transformaient en armoires et dégorgeaient des robes et de la lingerie fine, me mettait en transe. Je décidai de leur donner une image de moi exactement opposée à celle de la veille et de transformer les faibles décadents en bouviers loqueteux. Je massacrai ma plus belle chemise à coups de ciseaux, la réduisit d'un tiers pour faire un blouson et couper le col. Deux accros sur la poitrine me montraient velus et tétonneux. En mélangeant de la colle de poisson à des crottes de chèvre, je composai un musc infâme dont je m'enduisis et complétai le maquillage en me rasant les aisselles, en me coupant volontairement et en laissant le sang couler et se coaguler. J'y adjoignis un peu de teinture bleue de lessive que ma sueur répandit bientôt le long de mon torse. Je pris une fleur de jasmin que je posai derrière mon oreille. Je puais le bouc. Alors j'ouvris grande ma fenêtre, hideux et superbe. C'est à ce moment que je vis son dos.
Quelqu'un que nous avons interviewé pour cette émission a dit que quand on parlait de Salvador Dali, la plupart des artistes contemporains dont vous êtes, ils tordaient le nez. Est-ce que c'est votre cas ?
C'est-à-dire que Salvador Dali a vieilli très mal, on pourrait dire, parce que entre son côté très commercial et cette récupération mode, on a envie d'oublier Salvador Dali, en fait. Il ne correspond pas à l'idée de l'avant-garde dont on se fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que justement, dans les années 20, 16, 20, jusqu'aux années 30, vous avez deux événements très importants qui sont, il y a Picasso bien sûr, mais il y a surtout ce jeu entre Duchamp et Salvador Dali. Les deux artistes, à peu près à la même époque, où tous les artistes, grâce au dadaïsme, grâce aux conséquences du dadaïsme, les artistes décident de complètement éclater les limites de l'art, d'être iconoclaste à son paroxysme. Dali, lui, fait quelque chose de totalement délirant, c'est-à-dire n'importe quoi. Il y a vraiment cette idée dans ses sculptures de mettre un pain, des personnages, quasiment, aujourd'hui on dirait que c'est tout à fait kitsch, et ça fait franchement penser aujourd'hui à une sculpture de Jeff Koons, par exemple. C'est exactement le même côté kitsch. C'est peut-être une des premières sculptures qui assume son côté mauvais goût. Et puis à côté de ça, vous avez donc ce Duchamp, ce ready-made, qui veut aussi, lui, qui en a marre des écoles qui se veulent plus originales les unes que les autres, et qui propose un porte-bouteille. Et ce porte-bouteille, dans la mesure où justement c'est un objet, comme son nom l'indique, ready-made, comme s'il est déjà fait, pour moi c'est important parce qu'on est à la frontière où la pièce reste à l'intérieur d'un champ plastique, comme Salvador Dali, et Marcel Duchamp sort de cette logique pour entrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la, pour moi, que j'appellerais aujourd'hui de l'ordre de la philosophie.
Ils sont très proches, hein. Il ne faut pas oublier qu'ils se voyaient sans arrêt, que Duchamp venait passer ses vacances à Cadaqués, que Duchamp a réalisé la fameuse sculpture de Dali, la Vénus au tiroir, créée par Dali, réalisée par Duchamp. C'est intéressant, ça. Donc, ils étaient très proches, et Duchamp est à l'origine de l'art conceptuel, et je pense que tout peintre que soit Dali, il est aussi quelqu'un qu'on peut voir du côté de l'art conceptuel. Pourquoi ? Parce que ces tableaux reprennent de la littérature en eux. C'est-à-dire que ce n'est pas une peinture littéraire, comme on faisait au XIXe siècle, c'est une peinture à sujet et créée en rébus. Donc c'est une peinture qu'on doit décrypter. Or, Dali nous a mis sur de fausses pistes exprès, c'est-à-dire la piste psychanalytique. Donc on regarde une peinture, on dit Narcisse, le mythe de Narcisse, bon, ok. On voit Guillaume Tell avec des ciseaux, complexe de castration, très bien. Mais il y a des tas d'autres trucs dans la peinture, si on regarde, si on ne s'arrête pas simplement à ça. Donc il y a une espèce de fil comme ça, une espèce de presque de calembour visuel. C'est-à-dire, on enchaîne les choses, c'est presque une phrase. Et donc je pense qu'il y a tout un côté du langage, pour éviter ce mot de littéraire qui fait mauvais dans le paysage, il y a un côté du langage qui est chez Dali, comme chez Duchamp. Et Duchamp, il est du bon côté et Dali du mauvais. C'est-à-dire que Dali, c'est un peu des vieilleries impitres. Et Duchamp, c'est le côté presque le saint de l'art moderne. Or, ils sont très proches. Duchamp a fait dans le presque rien, dans on ne fait rien, je ne fais plus rien, je ne fais plus d'art. Et Dali on a fait dans le trop. C'est-à-dire, j'en fais trop, j'ai une idée par jour. L'autre avait une atmosphère extraordinairement raréfiée. Quand il disait deux mots, on en avait pour trois ans. Et Dali, c'était tous les jours un excès. Donc, si vous voulez, je crois que, étant donné que on est dans le puritanisme depuis les années 50 à cause de l'art américain, je pense que Duchamp, qui a eu la bonne idée de se naturaliser américain, est du bon côté, alors que Dali, qui est espagnol, qui est dans le trop, dans le côté catholique, il l'a bien dit, bon, le côté, il en a fait trop aussi de ce côté-là, est du mauvais côté en raison de ça. Je veux dire, du mauvais côté, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont arriver après. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui relie les deux ? Ben, c'est Warhol. Warhol avaient deux pères, c'était Duchamp et Dali. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai repéré récemment qui est assez drôle, c'est qu'au moment où Warhol n'avait pas de perruque, Dali en avait une. Donc même la perruque, il n'est pas impossible que Warhol l'ait repris à Dali. Et Warhol a repris énormément de choses à Dali, notamment d'être entouré de travestis, de jolies filles pour attirer les médias. Il a fait du cinéma comme l'autre. Bon, c'est fou. Il vendait ses œuvres directement sans vraiment passer par une galerie. Bon, les points de convergence sont énormes entre Dali, Warhol et Duchamp. Donc c'est ça que je voudrais mettre en avant dans la perception de Dali, sa modernité.
La célèbre méthode par la critique, il a la vertu que c'est une méthode que j'ai inventée il y a maintenant plus de 35 ans, et malgré qu'il fonctionne à merveille, encore aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas en quoi elle consiste. Mais une chose est certaine, c'est qu'il sert merveilleusement pour gagner de l'argent. Et vous savez que l'argent, et surtout l'or, c'est une de mes passions. Après Madame Dali, ce que j'aime le plus, c'est l'or. C'est pour ça qu'à New York, quand je dors le mieux, c'est quand à la fin de la journée, je pense à la quantité de chèques et de dollars que je vois tomber comme dans une diarrhée. Alors là, on s'endort avec une satisfaction inouïe. Cette méthode, que je ne sais pas en quoi elle consiste, elle a été quand même définie. Et la définition est la suivante. Méthode paranoïa critique, deux points. Méthode spontanée de connaissance irrationnelle, grâce à laquelle on dirige et on rend tangible tous les phénomènes délirants. Et alors quand je dis tangible, ça veut dire que ces phénomènes délirants sont rendus cartésiens. C'est pour ça qu'il y a un mot paranoïaque, que c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement. Tout ça, ça voudrait dire, d'une façon courte, que Dali est un fou de bonne qualité et de précision. Un fou de précision.
Et que faut-il penser de ces grandes analyses, par exemple, cette invention de cette méthode paranoïa critique qui est quand même, enfin, dont il parle tout le temps à un certain moment et qui est quand même assez étonnante aussi.
Bah, il a tout simplement, Breton a dit c'est le nouveau Lautréamont, parce qu'à ce moment-là, il rejetait Rimbaud, donc il n'a pas dit c'est le nouveau Rimbaud comme il l'a dit pour d'autres, il dit c'est le nouveau Lautréamont, parce qu'il apportait quelque chose d'entièrement nouveau à un moment où le surréalisme était un petit peu en difficulté, c'est-à-dire ils n'avaient plus leur revue, ils hésitaient sur la ligne à prendre par rapport au PC, et donc il était un peu perdu. Si vous lisez le second manifeste, du surréaliste de Breton, vous voyez qu'il ne sait plus très bien quoi dire, il ne sait plus très bien quoi faire, il attaque tout le monde. Et puis là-dessus arrive Dali et nouveau Lautréamont. Et la paranoïa critique qui est presque le contraire de l'automatisme, c'est-à-dire c'est un automatisme contrôlé, donc ce n'est plus un automatisme. Et tout d'un coup, Breton a même pensé à revoir sa théorie pour rejeter l'automatisme et prendre la paranoïa critique, c'est dire son importance.
Mais du coup, il va examiner un certain nombre de grandes œuvres, comme l'Angélus de Millet, par exemple, et qui est aussi, ça fait partie de ses grands délires.
Regardons. Cette mère qui pourrait bien être une variante de la mère phallique à tête de vautour des Égyptiens, utilise son mari fantasquement dépersonnalisé en brouette afin d'enterrer son fils, tout en se faisant en même temps féconder, étant elle-même la terre-mère nourricière par excellence. l'image double du phallus cactus nous apparaît comme une allusion sans équivoque au désir de châtrer l'époux, lequel, privé ainsi de sa virilité et réduit à l'état de simple véhicule de productivité sociale, ne peut plus faire écran ou nuire dans les rapports directs mère-fils ou soleil-levant du matriarcat absolu. Dans le matriarcat, la mère veut se substituer au mari en le remplaçant dans toutes ses situations, dans le cas présent, dans sa situation de brouette. Ainsi voudrait-elle jouer, être cajolée, être balancée rythmiquement brouette par son fils, lui-même au zénith de sa force héroïque d'universitaire sportif où il connaît, dans le matriarcat, une très courte période d'idolâtrie maternelle, juste avant de subir à son tour le sort de son père au moment qu'il va devenir mari.
Je pense que ça, c'est le salmôme, l'histoire de l'Angélus de Millet. C'est-à-dire qu'il prend une icône de la petite bourgeoisie qui est dans tous les salons petits bourgeois, et il pollue le regard par rapport à ça. Donc il raconte une histoire, mais vraiment tirée par les cheveux. C'est une histoire sexuelle, le type qui met son chapeau sur son sexe parce qu'il est en érection, etc. Bon, vraiment, ça tient pas du tout la route, même si il a prétendu qu'après, quand on avait vu le tableau au rayon X, on avait découvert qu'il y avait un cercueil. My foot, c'est une forme un peu, disons, en longueur. C'est un rectangle en longueur. Il faut vraiment le chercher pour voir un cercueil. Et je crois que tout simplement, il a voulu polluer le regard. De la même façon que quand vous voyez la laitière de Vermeer, vous ne pouvez plus la voir parce que vous pensez à Chambourcy. Là, du coup, vous regardez l'Angélus de Millet, vous ne pouvez plus le mettre dans un intérieur petit bourgeois parce que vous le voyez à travers Dali.
Mais par exemple, il y a un autre grand artiste espagnol aussi, qui a d'ailleurs composé un certain tableau très célèbre pas très loin d'ici, rue des Grands Augustins, Michel Nourissani, Picasso. Oui. Que dire de Picasso par rapport à Dalí?
Mais il s'entendait très bien. Hein. D'ailleurs, Picasso a payé le voyage de Dalí à New York, je crois que c'était en 1934. Il lui a donné 500 dollars. Enfin bon, il s'entendait très bien. Brassailles en parle dans ses conversations avec Picasso. Il a rencontré Dalí à cause de Picasso parce qu'il faisait des gravures pour Dalí, c'était pour illustrer l'autre et Amont. Et Picasso, je me souviens plus très bien. Donc Picasso et Dalí ont eu des rapports beaucoup plus proches et chaleureux que les uns et les autres le disent, parce que après ça s'est un peu gâté entre eux, parce que Dalí l'a charrié, il a tiré la corde au maximum comme il le faisait toujours. Et bon,
de quelle manière, par exemple?
Pour rendre le fric à Picasso, c'est-à-dire que l'autre lui a passé 500 dollars et Dalí disait j'attends qu'il me le réclame, et Picasso disait bon, j'en ai un peu marre. Il disait Picasso, c'est dommage parce que c'est quelqu'un de très amusant, très intelligent, donc j'aurais bien aimé le revoir, mais il était comme ça, Dalí, hein. Il tirait sur la corde. Il allait jusqu'au bout du temps au paroxysme. C'est un artiste paroxystique.
Jamais je suis capable de donner de l'argent à qui le demande, même s'il crève de faim, parce que ce serait contre mes principes moraux. Je suis vraiment très généreux, par exemple, de vous avoir tous vous ici assis et vous donner comme si je ressortais mon sein de nourrice. Et vous donner à têter des idées, des choses qui valent vraiment des millions et qui pourraient vous alimenter pour tout le reste de votre vie. À ce point de vue, oui. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont amusé pendant une année leur contemporain, mais moi, il y a au moins 50 ans que tous les jours et toutes les heures, j'amuse mes contemporains. Alors, de nouveau, bravo, bravo. Entrez! Voulez-vous, cher photographe, ouvrir la porte? Parce que je crois qu'il y a un monsieur qui est en détresse.
C'était un homme qui travaillait assez vite.
Vite et énormément. C'est comme ça qu'il a sculpté pour la première fois de sa vie. Il a vraiment fait des sculptures dans les années 70. Quand il avait fini de travailler, il faisait des cires. Et comme c'était très agréable de travailler des cires qui étaient un peu molles, il montait à sa piscine en plein jour, à 13 heures, il sortait de l'atelier et il allait modeler des petites sculptures et il y en a eu beaucoup de faites. Je crois que pour une collection, il en a fait 42 ou plus, qui sont éditées maintenant.
Ce concept du mou, enfin, par rapport au dur, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans l'œuvre de Dalí. Il y a évidemment tout le monde se rappelle les célèbres montres molles qui sont tout à fait spectaculaire quand on les découvre pour la première fois. C'est quand même un choc de voir ces montres à moitié pliées qui dégoulinent comme le cadran, justement, qui semble ruisseler. C'est assez étonnant à voir.
Oui.
Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il est revenu sans cesse.
Ah, tout le temps. Tout le temps, il les avait reproduites dans cette fameuse fresque faite pour son pavillon à la World's Fair de 39. Et d'ailleurs, il y a une anecdote amusante qui se rapporte à l'univers, financier de l'œuvre de Dalí. Un marchand de New York me demande de venir chez lui voir cette grande fresque qui faisait 8 mètres et qui venait d'acheter 12 000 dollars. Et je trouve que c'est très très intéressant, je fais faire des petites photos et ensuite tout s'endort. Et un jour, un spécialiste de Dalí qui tenait son catalogue à New York lui envoie une photo de cette fresque. Et Dalí répond « Je n'ai pratiquement pas travaillé sur cette œuvre ». Alors moi ça m'embêtait un petit peu parce que je l'avais vue et alors je me suis dit « Bon, et puis tout ça s'est endormi ». Et un jour, j'ai vu arriver un grand marchand de New York avec aussi un grand groupe japonais qui viennent me trouver pour me demander de reprendre les expertises. Et j'ai refait les expertises et j'ai cherché pourquoi Dalí avait dit que pratiquement c'était pas de lui. Parce qu'on avait des photos de lui en salopette en train de peindre ça. Alors j'ai compris que son pavillon de Vénus, on n'avait rien fait comme il voulait, qu'il était parti en claquant la porte, qu'il avait pris le Normandie pour rentrer en France, et que, évidemment, après, il a démoli la peinture parce qu'on n'avait pas fait le pavillon comme il voulait. Et alors, la peinture, finalement, après un bon travail de votre, comme il disait, humble et modeste serviteur, a été vendue 5,5 millions de dollars à un musée au Japon. Elle a commencé sa carrière Madison Avenue à 12 000 dollars.
Ça va, la différence était de taille. D'où le surnom célèbre
Avida,
qu'André Breton lui avait donné à partir de l'anagramme de son nom, Avida Dollar. Ça, c'est quand même c'est une belle trouvaille.
Ah oui, c'est une belle trouvaille. Et lui, il a dit de Breton, cette gentillesse, tant et tant d'intransigeance pour arriver si peu. Ce qui était vraiment une gâterie aussi.
Le 5 février 1934, André Breton avait réuni dans son atelier 42 rue Fontaine l'aréopage surréaliste pour juger ma conduite. J'étais fiévreux et souffrais d'un début d'angine. Je me couvris chaudement, enfilai mon pardessus en poil de chameau, me munis d'un thermomètre placé sous la langue pour conserver ma vigilance en éveil sur mon cas. Le matin même, le pape avait reçu une lettre signée Crevel, Zara et Éluard déclarant qu'ils ne voteraient pas mon exclusion en dépit de la sommation de l'ordre du jour qu'ils avaient reçu. Ordre du jour, Dalí s'étant rendu coupable à diverses reprises d'actes contre-révolutionnaires tendant à la glorification du fascisme hitlérien, les sous-signés proposent, en dépit de sa déclaration du 25 janvier 1934, de l'exclure du surréalisme comme élément fasciste et de le combattre par tous les moyens. Breton était donc décidé à frapper un grand coup. Pour m'y préparer, j'ôtai mon sixième chandail. mon thermomètre bien fixé dans la bouche, j'attaquais à mon tour, décidé à prendre Breton à sa propre logique. J'affirmais hautement que pour moi, le rêve restait le grand langage surréaliste et le délire le moyen d'expression le plus magnifique de la poésie. J'avais composé mon Lénine et mon Hitler à partir de rêves. J'étais un surréaliste total qu'aucune censure, aucune logique n'arrêterait jamais. Lorsqu'on est surréaliste, il faut être conséquent avec soi-même. Tous les tabous sont à proscrire, ou alors qu'on énumère la liste de ceux qu'il faut servir, que Breton déclare que le royaume de la poésie surréaliste n'est qu'un petit domaine où sont assignés à résidence les artistes interdits de séjour, placés sous le contrôle de la police, des mœurs ou du Parti communiste. Ainsi, André Breton, concluai-je, si je rêve cette nuit que je fais l'amour avec vous, demain matin, je peindrai nos meilleures positions amoureuses avec le plus grand luxe de détails. Breton se figea, la pipe bloquée entre les dents, et grommela furieux : je ne vous le conseille pas, cher ami. Il était maté. Pendant que je retirais mon 7e chandail et apparaissait le torse nu, il m'adjura de renoncer à mes idées sur Hitler sous peine d'exclusion. J'avais gagné. J'avais transformé cette manifestation grotesque en un véritable événement surréaliste. Breton ne devait jamais me le pardonner.
Est-ce que cette exclusion ne fait pas partie des points noirs dans la gloire de Dali ?
Il l'a cherché.
Oui, tout à fait.
Il l'a cherché. Il a parlé d'Hitler alors qu'en 1933, quand même, c'était déjà évident que ça allait donner quelque chose. Mais lui, si vous voulez, il avait par rapport à Hitler une position... que je trouve beaucoup plus intelligente que les autres, il pensait que Hitler était un machochiste qui voulait perdre la guerre. Donc dès 34, il le dit. C'est vraiment quelqu'un qui a une analyse extrêmement pointue. Il n'a pas prévu le reste et les choses horribles qui se sont passées. Et on peut dire quand même que les surréalistes ont été aveugles sur beaucoup d'autres choses, et notamment sur le stalinisme et sur... un assez grand nombre de points. Donc Dali a une pensée très joueuse qui peut nous choquer maintenant parce que on sait ce qui s'est passé après, qu'il a eu des rapports avec Franco un peu douteux, pour ne pas dire plus. Mais à chaque fois, il y a des explications. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est chez Dali et le plus important, c'est Cadaquès. Cadaquès, c'est à la fois son enfance, le vert paradis de l'enfance, c'est ce qu'il préfère au monde. Il préfère ça à tous ses amours, à tout ce qu'on veut. Il veut revenir à Cadaquès. Il est à New York, il est aux États-Unis. Il n'a qu'une envie, c'est vrai. Donc il s'en fout. Il passe par Franco. Bon, alors on peut le critiquer, on doit le critiquer, mais en même temps, je pense que essayer de le comprendre n'est pas non plus sans intérêt. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes passent par toutes sortes de choses pour obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. Et lui, il voulait revenir à Cadaquès, à Port-Liga plus exactement, qui est à 2 kilomètres de Cadaquès, c'est de l'autre côté de la colline et du coup de l'autre côté du cimetière, qui est intéressant.
Et puis Figueras aussi, où il y a donc...
Il est né là.
Il est né là, où il a créé la fondation, ouais. Qui est aussi quelque chose d'important pour lui, puisqu'elle a été, il l'a créé lui-même de son vivant.
Ben voilà, ce qui est d'extrêmement intéressant, c'est que, bon, il l'a créé à la fin de sa vie, à un moment où quand même c'était un tout petit peu difficile pour lui. Hein. C'était quand même une création de fin de vie. Bon, ce qui est passionnant, c'est que c'est un musée entièrement créé par un artiste. Il n'y en a pas beaucoup.
Ça, c'est un plan assez étonnant, Enrique Sabater.
Enfin, ça, c'est une autre preuve d'un être humain comme nous, en train de se reposer après la grande pêche, parce qu'on a pêché avec la gambine, quand on voit avec des autres photos, et il y a le repos, et comme il fait chaud, donc on voit un peu de jus d'orange. Bon, ça sont une autre photo, un autre exemple, que ce n'est pas les photos habituelles surréalistes de M. Dalí. Ça, jamais on les voit, on l'avait vu avant, quoi.
Là, il est dans les rochers de Portligat.
Oui, ça, c'est à l'autre côté de chez lui, à l'autre côté de l'abbaye de Portligat, vers la sortie à la mer ouverte, déjà, à droite. Ça, c'est une partie du Nil qu'il y a d'un côté.
Et il est étendu, donc, assez mollement sur un matelas pneumatique. Bleu, on dirait qu'il sort du bain, effectivement, il est en maillot de bain, le corps est drapé dans une serviette blanche, et il sirote donc un jus de fruits.
Oui, un jus de fruits. Et c'est vrai que ça sortait du vin en plus, seulement que ici, vous voyez lui avec les pieds dans l'eau, en l'autre photo là derrière vous, en train de tirer l'appareil pour la pêche, mais... Il y a beaucoup de photos, mais il n'y a pas la place pour tout mettre. Mais on est limité au espace.
Et il a l'air parfaitement heureux.
Ah oui, mais il était très heureux. Un moment de repos pour un grand travailleur comme lui, c'est une nouveauté, quoi.
J'en suis arrivé à la classification suivante. Dalí est génétiquement espagnol, dialectiquement imprégné par la France ou francisé, esthétiquement italien et commercialement américain.
Et catalan ?
Bon,
c'est
oui.
C'est un peu tout ça ensemble.
Oui, il était catalan, mais en tous les cas pas catalaniste. Non, il était même pas catalan, il était empourdanais.
Et c'est-à-dire ?
Eh bien, l'Empourdan, c'est la province du Nord où il est né.
À Figueras.
Et avec le village de Cadaqués, où on allait plus facilement, où on a d'ailleurs un parler très curieux à Cadaqués qui ressemble un peu au Mallorquin, et où on allait justement plus facilement à Mallorca qu'à Figueras avec les routes qu'il y avait.
Je suis un paysan catalan accordé à l'âme de ma terre. Il n'y a pas d'exemple qu'après un mois de vie à Portligat, je ne retrouve la force tellurique qui me permet de résister à tous les orages, à toutes les tentations, comme à un roc. C'est à Portligat que je me suis exercé à forger mes pensées et mon style coupant comme l'épée de Tristan. Nous y vivons dans la solitude, au rythme des pulsions cosmiques, pêchant les sardines à la nouvelle lune et sachant que, au même moment, les salades montent au lieu de pommer. Préférant méditer sur les intuitions géniales de Paracelse que d'écouter la radio, rêver les yeux ouverts au monde de l'invisible plutôt que de se laisser conditionner par la télévision, voler au sommet des cimes de l'absolu au lieu de militer pour le développement d'un socialisme utopique, je m'occupe de mon champ, de ma barque, c'est-à-dire de la toile que je suis en train de finir comme un bon ouvrier en ambitionnant des choses simples, manger des sardines grillées et me promener avec gala le long de la plage, le soir tombant, en regardant les rochers gothiques se transformer en cauchemars dans la nuit. Je me suis construit sur ces grèves. J'y ai créé mon personnage, découvert mon amour, peint mon œuvre, édifier ma maison. Je suis inséparable de ce ciel, de cette mer, de ces rochers, lié à jamais à ce Portligat, qui veut dire port lié, où j'ai défini toutes mes vérités crues et mes racines. Je ne suis chez moi qu'en ce lieu. Ailleurs, je campe. Oui, je suis un paysan catalan dont chaque cellule est ramifiée à une parcelle de son sol, chaque étincelle d'esprit à une période de l'histoire de la Catalogne, patrie de la paranoïa.
Et sinon, y a-t-il des œuvres de Salvador Dali que vous aimiez particulièrement, qui vous soient restées en mémoire, Gérard Carrousse?
Écoutez, il a fait des tableaux où il était très impliqué dans des histoires d'anamorphose. Et la manière dont il a traité les anamorphoses, qui correspond à ses manières molles, vous savez, où il fait des espèces de meubles mous, des choses comme ça, des choses à tiroirs molles, j'aime beaucoup ça. Parce que tout d'un coup, c'est pour moi des tableaux aujourd'hui très, très, très passionnants. Parce que c'est un défi à la laideur. Il recrée, c'est ça pour moi les bons artistes. Ce sont des artistes qui s'aventurent dans la laideur pour, à partir du lait, recréer du beau.
Quand vous parliez des anamorphoses, je pensais à l'une des installations que l'on voit à la Fondation Dali, à Figueras, où, par exemple, à un moment, on monte sur un petit escalier et on plonge dans une scène absolument incroyable. On regarde à travers une sorte d'objectif et on découvre l'assemblage d'un visage fait d'un canapé en forme de lèvres, d'énormes narines qui sont juste au-dessus, et puis de deux grands tableaux qui sont posés contre le mur et qui représenteraient les yeux. Et super visage de femme en même temps qu'on voit du haut. Et c'est très très beau. Et il a très souvent joué effectivement avec les miroirs, avec les représentations un peu décalées. Et ça, c'est étonnant. C'est aussi un côté très baroque en même temps.
Bien sûr, mais aussi il faut pas oublier que cette période, on a l'impression qu'ils sortent d'une période très sérieuse, parce que même avec les impressionnistes, bon, les impressionnistes avaient réagi un peu contre le classicisme pompier du 19e siècle, mais il y avait une idée, tout ce que Duchamp appelait enisme, toutes ces écoles enisme, fauvisme, impressionnisme, tout ça était finalement très sérieux, avec un marché, avec une prise en considération de la lumière, tout ça. Bon. Et là, on a tout à fait l'impression que cette génération qui tourne autour de Salvador Dali sont des artistes qui sont des... comme des explorateurs. Ils explorent l'image et toutes ces possibilités auxquelles on n'a jamais osé toucher. Ou plutôt, on les a effleurées sous la Renaissance, c'est-à-dire, je pense, aux caméras obscura de la Renaissance, parce que ce que vous venez de décrire, que ce soit Duchamp ou que ce soit Salvador Dali, c'est très très lié aux caméras obscura, aux études de perspective de Dürer, quand Dürer étudie la perspective et qu'il essaye de mettre en scène dans une petite boîte les proportions d'un individu en fonction de la distance, etc., et qu'on découvre l'inouï de la perspective qui s'imprègne au fin fond d'une rétine. Donc ils sont fascinés par ces choses-là et ils ont envie de développer tout ça, et c'est là leur côté iconoclaste leur donne une extraordinaire liberté. Et tous les artistes de cette époque, que ce soit Magritte, Picasso aussi, Matisse, même s'ils ne sont pas directement liés au surréalisme, tous partent dans l'aventure, dans une vraie aventure, et tout à fait, les collages, tout ça, on y va à fond la quête. On peut les envier, aujourd'hui, nous, peintres, on peut envier cette époque parce que l'originalité était la boussole. Être original, c'était la règle du jeu, et on n'en finissait pas d'être original.
Chaque année, quittant Cadaquès pour Paris, nous arrivons dans notre vieille Cadillac jusqu'à la gare de Perpignan, où j'attends dans le hall que Gala ait achevé l'enregistrement des bagages. Depuis des années ainsi, la gare de Perpignan est pour moi une source d'illumination, une cathédrale d'intuition. Je me suis longtemps dit que le génie a besoin d'un lieu trivial pour s'affirmer. Le Parthénon ou les chutes du Niagara sont des lieux trop écrasants. L'absurde et l'anodin sont de meilleurs compagnons de l'illumination. Les mémoires de l'inconscient ne laissent filtrer leur message que dans les instants de vacuité de l'esprit, et les water closets sont un haut lieu d'état de grâce qui vaut bien la gare de Perpignan. Puis, en 1966, je découvris que c'est à Perpignan qu'on avait fixé la mesure de la terre, le mètre étalon. C'est sur la ligne droite de 12 km entre Vernet et l'entrée de Sals, au nord de Perpignan, que Méchain, en 1796, établit les bases de la triangulation qui aboutirent à définir ce maître étalon. Je compris la signification métaphysique fondamentale de cette recherche. Le maître étalon n'est pas seulement la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre, il est la formule de la densité de Dieu, et ce lieu m'apparaît comme privilégié entre tous. La gare de Perpignan devient un haut lieu véritable. Le point central de l'univers était devant moi.
Oui, bon, la gare de Perpignan. La gare de Perpignan, il faut comprendre que Dali était obligé de tuer le temps. Et il attendait en achetant ses revues habituelles, c'était Science et Vie, ou etc. Mais c'était une gare de Perpignan ancienne, avec un vrai guichet, avec, avec, si vous voulez, une planche de bois usée par les gens qui ramassaient leur monnaie. Et donc il avait observé tout ça et il a commencé à construire son affaire de la gare de Perpignan parce qu'il y avait le boulot, parce qu'il était passionné par tout ce qui était les recherches de l'atome et qu'il avait donc remarqué qu'au boulot, il y avait en général des mouches. Il y avait un petit essaim de mouches classique dans des endroits un peu avec une certaine humidité qui se jettent les unes sur les autres. On les voit et on a l'impression qu'elles vont s'entrechoquer, et en fait, elles s'entrechoquent pas. Alors, il a tout de suite, lui, fait une comparaison avec la chambre de Wilson et les atomes. Alors ça, c'était déjà un bon point pour construire. Ensuite, il a regardé la gare, mais il lui est arrivé un événement imprévu qui était la mesure du mètre étalon, du méridien. Avec Arago, qui avait mesuré, et qui avait mesuré la ligne droite entre Perpignan et Sals, et que là, il avait ajouté ça avec le mètre étalon. Et puis alors après, il y a eu la dérive des continents. Et alors là, la dérive des continents, qu'il y ait une faille, et c'est là où il a dit que si les Pyrénées n'avaient pas tenu, l'Espagne se serait retrouvée en train de boxer les kangourous. Alors tout ça, c'était Perpignan.
Autre plan très intéressant, Enrique Sabater, cette fois Dali, dans un fauteuil, en train de lire un journal.
Oui, ça, cette photo, c'est à la gare de Perpignan. Nous attendons ici les trains pour nous déplacer à Paris. Donc, il est en train de lire les journaux de c'est la coïncidence, la fin de Gaulle. Donc, c'est une chose qui a attiré beaucoup l'attention autour du monde, à millions et des millions de personnes. Donc, imaginez-vous, M. Dali aussi, il était très, très intéressé pour toute cette histoire au sujet autour de Gaulle.
Nous sommes en mai 68, évidemment.
Oui, bien sûr.
Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que, donc, on voit ce gros plan sur le journal, qui semble être minute, d'ailleurs.
Oui.
Et alors, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que de la main de Dali, de son poignet, part une petite ficelle qui est rattachée à une valise.
Toujours, n'importe quel déplacement nous faisions, toujours dans cette petite valise que c'est moi qui amenais et attaché avec une ficelle à sa main droite. Ici, il y a toujours les derniers manuscrits, les derniers croquis qu'il avait fait et qu'il ne voulait absolument pas du tout perdre. Donc,
mais la petite ficelle a un petit air misérable, ce qui fait tout à fait contraste avec le personnage flamboyant qui était Dali.
Ah oui, mais ça c'est une preuve de plus de sa normalité, humanité, que personne connaît pratiquement, parce qu'il était une personne tellement timide qu'il était obligé à faire des efforts d'extravagance dans les milieux de la presse, c'était la façon de lutter contre sa propre timidité.
Une de mes obsessions, c'est la mort, et je voudrais la retarder le plus que possible, malgré qu'étant catholique, je sais que c'est inévitable. Mais je voudrais que ça dure le plus, jusqu'à, si c'est possible, 2 semaines de plus, ça serait déjà merveilleux. Et il existe à Washington une société de prolongation de la vie du docteur Stinger. Déjà, mon ami Walt Disney, il n'est pas enterré comme tout le monde. Il est dans un cylindre avec de l'hélium liquide en attendant, théoriquement, qu'on puisse le ressusciter. Et moi, et ça coûte d'ailleurs, ça coûte 8 000 $ actuellement. À moi, on ne le fait pour rien à cause de la publicité, alors moi, ça ne me coûte rien, mais je suis aussi dans la liste. Et ça, malgré que je crois que c'est théorique, c'est-à-dire que je crois que même si on se fait glacer de cette façon, on est quand même foutu aujourd'hui. C'est trop prématuré, c'est trop primitif. Mais quand même, je l'ai fait, ne serait-ce que pour embêter les gens de Figueras, de ma ville natale.
Le temps transforme les artistes. Donc, vous voyez par exemple Duchamp, on ne voit que le ready-made. Picasso, c'est pareil, il est réduit au cubisme aujourd'hui. Mais ça, c'est encore l'histoire de l'art vue par l'Amérique, transformée par l'Amérique, c'est-à-dire que les artistes, Duchamp, c'est l'icône de la modernité, avec Picasso et Duchamp, et Dali n'existe pas à l'intérieur de ça. Dali, j'espère qu'on va le redécouvrir d'une autre façon. Il est dans le creux de la vague, vous savez. Alors, est-ce qu'il en sortira ou pas, ou est-ce qu'il va être dans les oubliettes? Il est dans le creux de la vague en ce moment. Mais je pense que, de toute façon, les grands artistes ressortent à un moment ou à un autre. Et Dali est un grand artiste.
Between one crazy man and Dali is very simple. Dali is not crazy at all.
Avec à Paris Robert Descharnes, ancien secrétaire de Dali, Gérard Garouste, artiste plasticien, Michel Nuritsani, critique d'art, en Suisse Beniamino Levi, qui a créé l'espace Dali à Montmartre, et à Barcelone, Enrique Sabater pour ses photos de Dali. Extrait des entretiens de Salvador Dali avec André Parrino en 1951 et avec Jacques Chancel en 1971. Archive INA, préparée par Estelle Gap. Les textes de Dali, lus par Jean-Luc de Baptiste, sont extraits de Oui, Dali, présenté par Robert Descharnes chez De Noël, et Comment on devient Dali, présenté par André Parrino chez Robert Laffont. Prise de son Pierre Comon et Célia Dufour, mixage Serge Ristiche et Thomas Coudreuse, une émission de Pascal Lismonde réalisée par Dominique Costa.
Allô, oui, c'est moi-même. Alors je vous salue. Je vous parle un peu littérairement parce que je suis en train de faire une émission dont vous voyez, vous restez immortalisé. Bonjour, au revoir.
Une vie, une œuvre. Une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Commentaires, réécoutez podcast sur franceculture.fr. La semaine prochaine, samedi et dimanche à 17h, pour ces dernières rediffusions de l'été, Une vie, une œuvre vous entraîne dans les mondes parallèles et visionnaires de Lovecraft et Philip K. Dick.